Eh bien, je vous propose de partir dans la première épître de Jean et d'y rester pendant le moment où nous allons réfléchir, méditer sur ces quelques textes. Alors, dans la première épître de Jean, et non pas dans l'évangile de Jean, hein, nous sommes d'accord, nous allons au chapitre 3. Nous allons lire les versets 23 et 24. Que nous commande Dieu de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qui nous a donné. Chapitre 4, les versets 13 à 16. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Un peu plus loin, au chapitre 5, les cinq premiers versets. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et les versets 9 à 13 pour terminer cet ensemble de lectures, mais nous en verrons d'autres pendant le message. Verset 9. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu, celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Un des mots les plus dénaturés, je pense que c'est le mot chrétien. Il n'est plus considéré le plus souvent de la même manière aujourd'hui que dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, il est mis à toutes les sauces, surtout la sauce aigre-douce. Nous allons nous arrêter sur ce que Dieu nous enseigne à travers la première épître de Jean. Qui est chrétien ? Et comment cela se manifeste-t-il ? Nous nous arrêterons sur ces deux points aujourd'hui et normalement dimanche prochain. Pourquoi un tel sujet ? Nous sommes dans un monde de confusion où, très souvent, tout le monde est sauvé, où toutes les religions ne seraient qu'une expression de la vérité, où le principal, c'est de croire en Dieu, chacun à sa manière. C'est l'histoire de deux personnes qui discutent ensemble. Nous servons Dieu chacun à notre manière, vous à la vôtre et moi à la sienne. Aujourd'hui, particulièrement, on ne voit pas pourquoi on ne serait pas sauvé chacun selon sa perception. Si l'on croit à l'existence de Dieu, cela semble suffisant pour se dire que l'on est chrétien. Ou ce qui est suffisant, c'est d'avoir été baptisé pour être sauvé. On l'espère en tout cas. Est-ce le critère que Dieu donne dans sa parole ? Le fait d'appartenir à une famille qui était pratiquante ou d'être dans un pays qui se dit chrétien suffit à croire qu'on l'est. On ne sait pas, on ne sait plus, mais on ne se pose plus la question sur ce qu'est le véritable chrétien. Le chrétien, c'est très souvent celui qui fait le bien, qui n'a pas commis de gros péchés, qui est pour le droit des opprimés. Aller au culte ou à la messe semble être aussi une marque essentielle de celui qui se dit chrétien. Une autre raison du choix de ce sujet ce matin est la question de l'incertitude. Suis-je chrétien ou pas ? Alors ce doute peut se retrouver chez les jeunes, mais je pense pas seulement. Il faut dire que quand la foi est baptisée est basé sur le sentiment, sur ce qu'on ressent, sur le comportement, qui est souvent pas du tout à ce qu'on pense que Dieu veut, avant d'être fondé sur ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est une constante remise en question qui se vit alors dans l'anxiété. C'est pour cela que nous voulons approfondir ce que Dieu dit dans sa parole sur cette question. Qui est chrétien ? Alors, arrêtons-nous sur quelques expressions qui sont employées pour qualifier le chrétien dans la première épître de Jean. Mais nous ferons référence en particulier à l'évangile de Jean aussi. Jean n'emploie pas le mot chrétien. Pourtant, cette lettre est une des plus tardives, écrite certainement vers la fin du premier siècle. En fait, ce sont les ennemis des chrétiens qui les appelaient ainsi. La première fois, nous est-il dit dans le livre des Actes, au chapitre 11, ça a été vers l'an 43. Donc, à peu près 10 ans après la résurrection de Jésus. Il y a 2 autres mentions, dans la bouche d'Agrippa, dans le livre des Actes, et une autre sous la plume de l'apôtre Pierre. Mais Jean part d'autres expressions pour définir le chrétien. Et elles vont nous permettre d'en approfondir la signification réelle. Ces expressions sont différentes, mais indissociables les unes des autres, et elles forment un tout. D'abord, l'accent est mis sur la foi. Je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, donc c'est cela un chrétien ? Celui qui est sauvé, vous qui croyez au Fils de Dieu. Chapitre 5, verset 13. Celui qui est chrétien est donc celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est dit encore au chapitre 5, verset 5. Déjà, dans l'Évangile, Jean avait affirmé, en conclusion, « Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Jean chapitre 20. Alors c'est sûr qu'en français, croire marque la certitude ou, je crois, l'incertitude. Mais le Nouveau Testament, au contraire, parle d'une ferme conviction, d'une ferme confiance quand on dit « je crois ». Jésus a affirmé, et c'est Jean qui le rapporte au chapitre 3 de l'Évangile, « Qui place sa confiance ou qui croit dans le Fils a la vie. Qui ne place pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » D'autre part, il est nécessaire de croire que Jésus n'est pas qu'un homme, même le plus parfait, le modèle le plus extraordinaire, mais qu'il est Dieu. Et c'est ce qu'implique l'expression « fils de Dieu ». Il n'y a rien qu'à lire dans l'évangile de Jean au chapitre 5 ce qu'il est dit. Les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus parce qu'il appelait Dieu son propre Père, fils de Dieu, hein, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. D'autre part, Jean souligne la notion d'intégration, d'union entre l'être humain et Dieu pour définir qui est chrétien. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, dit-il au chapitre 1er, verset 6, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Cela montre que si nous vivons manifestement loin de Dieu, nous ne pouvons pas penser que nous sommes chrétiens, que nous sommes en communion avec lui. L'affirmation contraire est donc vraie. L'union avec le Seigneur fait d'une personne un chrétien. C'est le même enseignement que Paul donne dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Donc on est chrétien quand on a reçu de Dieu sa vie et quand on est réconcilié avec lui. Et cela n'est possible que parce que Christ a fait à la croix où il a pris nos fautes. Croire dans le Fils de Dieu parle d'une communion. L'objet de la foi est Jésus. Cela signifie que le chrétien est celui qui est en lui, uni à Jésus. Alors les religions ont inventé les actes pour Dieu, pour penser éventuellement être sauvé. Dieu, dans sa parole, affirme qu'il faut être uni à lui. Et c'est possible quand on place sa confiance en lui. Le nom, c'est la personne. Avoir la vie éternelle est lié à l'union avec Jésus-Christ et découle de la confiance en lui. Voilà. Alors une autre réalité qui est proche de la précédente est le fait de connaître Dieu. Alors là, il y a plusieurs textes dans la première épître de Jean qui parlent de cette expression, connaître Dieu. Dans la Bible, connaître, la connaissance, est celle du couple et parle de l'union et de l'intimité des deux conjoints. Ça veut dire que, sur le plan spirituel, on est chrétien quand on connaît Dieu, c'est-à-dire quand on vit dans une relation d'intimité avec lui. Et puis, Jean définit qui est chrétien à travers l'œuvre de Dieu dans l'être humain. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'était la première partie que nous venons de voir, alors Dieu demeure en lui. Ou encore cet autre verset au chapitre 5, celui qui croit que Jésus est le Christ, c'était notre première partie, est né de Dieu. L'œuvre de Dieu est donc de venir habiter en nous, en nous faisant naître à sa vie. Il nous donne la vie. C'est beaucoup plus que l'existence, cette vie intérieure. Et cela en nous faisant renaître. Le chrétien est donc celui qui est né de Dieu. Plusieurs fois, Jean utilise cette expression dans son épître. Cela appuie ce que Jésus avait dit à Nicodème, que Jean reprend au chapitre 3. « Vraiment, je te l'assure, » avait dit Jésus, « à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Celui donc qui connaît cette nouvelle naissance, dit Jean dans sa première épître, est passé de la mort à la vie. Nous sommes alors ses enfants, lui qui nous a fait naître à sa vie. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, s'exclame Jean. Le chrétien est donc celui qui est né de Dieu, qui est son enfant et qui peut appeler Dieu Père, Papa. Le changement n'est donc pas que théorique, que dogmatique, j'ai une bonne doctrine, un bon enseignement. Il parle de l'action de Dieu qui fait alors connaître sa vie. Quel privilège de savoir que ce n'est pas notre travail mais que cela dépend de l'œuvre de Dieu en nous. Une autre réalité qui fait de quelqu'un un chrétien, c'est le fait d'être dans la lumière, dit Jean, à plusieurs reprises. Alors qu'est-ce que ça signifie par rapport au salut ? C'est être devant ce Dieu qui est lumière et qui éclaire notre vie. Nous vivons alors dans sa lumière, dans la pureté. Quand Jean écrit, nous vivons dans la lumière, parce que Jésus a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Quelqu'un est chrétien quand il est pardonné de ses péchés. Tout s'éclaire alors pour lui. Il est dans la lumière et non plus dans les ténèbres de la culpabilité, de la condamnation à cause de ses péchés. Une grand-mère était entrée avec son petit-fils dans une cathédrale. Et à l'intérieur, alors, le garçon est surpris par l'éclat lumineux des vitraux. Et alors, il demandait à sa grand-mère quels étaient les personnages qui étaient dessinés sur ces vitraux. Et chaque fois, elle répondait, un chrétien. Et quelque temps plus tard, au club d'enfants ou à l'école du dimanche, la monitrice demandait, à votre avis, qu'est-ce qu'un chrétien ? Et alors notre garçon de répondre, un chrétien, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean ajoute que le chrétien est celui en qui Dieu demeure. Plusieurs fois, nous avons lu qu'il y a cette expression. Ce qui fait d'un être humain l'enfant de Dieu, en qui Dieu demeure. Le chrétien a la certitude que le Seigneur vit en lui et qu'il a fait sa demeure en lui. Et cela pour l'éternité. Quelle certitude, quelle ferme assurance! Le chrétien sait que Dieu est pour toujours avec lui, malgré sa faiblesse. Malgré sa faiblesse. Mais à cause de l'œuvre de Christ. C'est le témoignage du grand philosophe, scientifique, etc., etc., Pascal, Blaise Pascal. Lundi 23 novembre, l'an de grâce 1654. Certitude, certitude, sentiment, joie. Dieu de Jésus-Christ. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Joie, 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 pleurs de joie, soumission totale à Jésus-Christ, éternellement en joie. Après cela, nous pouvons nous poser cette question. Où en sommes-nous par rapport au salut ? Alors au contraire d'un flou artistique dans lequel on peut passer toute sa vie, la Bible nous éclaire sur notre position et veut nous convaincre. On est dans les ténèbres ou dans la lumière ? On est loin de Dieu ou uni à lui ? On est mort spirituellement ou on a reçu sa vie ? On ne peut pas être dans les deux situations en même temps. C'est pour ça que Jean écrit dans sa première épître au chapitre 5, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » On est soit enfant du diable, soit enfant de Dieu, dit-il au chapitre 3, verset 10. Pour compliquer un petit peu l'affaire, il y a des enfants du diable très gentils. La différence ne se fait pas d'après les actes, ni grâce au baptême qu'on aurait reçu. Ce qui est déterminant, c'est de recevoir la vie que Dieu donne, d'être dans sa lumière, de naître de lui. Ce qui compte, dit l'apôtre Paul en conclusion de son épître aux Galates, c'est d'être une nouvelle créature. Le chrétien est donc, pour résumer, celui qui croit fermement en Jésus-Christ et qui a placé sa confiance en lui. Celui qui est né de Dieu et qui a reçu sa vie, c'est la conséquence de la première affirmation. Celui qui le connaît et qui est connu de lui, celui qui vit en lui, dans l'union avec lui, est celui en qui Dieu demeure. Il nous paraît évident que ces faits sont le fondement pour définir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le comportement dont l'apôtre Jean parle dans sa première lettre en particulier ne peut pas être interprété comme étant déterminant pour le salut. L'amour, le bien, le fait de ne pas vivre dans le péché en sont les conséquences et non la source. Mais cela, nous le verrons dimanche prochain. À la différence de beaucoup de religions que l'être humain s'est fabriquées et qui trop souvent le détournent de la vérité, nous pouvons nous appuyer sur l'Écriture pour bâtir notre foi et l'espérance de notre salut. Nous sommes peut-être de ceux qui fondent leur salut sur une étiquette, j'ai telle religion, ou sur leurs bonnes œuvres, leurs comportements. La Bible nous montre que tout cela ne mène qu'à la perdition. Peut-être parmi nous, certains doutent de leur salut, à cause justement de leur comportement, et cela malgré leur foi. Cela a été mon cas pendant des années après ma conversion. Et cela jusqu'au moment où j'ai pris à la lettre les promesses et les certitudes que la parole de Dieu me laissait. Et tout particulièrement ce verset de la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » À quelles conditions je peux en être certain? Vous qui croyez au Fils de Dieu. Oui, je croyais. J'avais mis ma confiance dans le Fils de Dieu. Pour moi, Jésus-Christ était le seul en qui je pouvais avoir vraiment confiance. Je lui avais dit, je m'étais engagé devant lui. Alors je l'ai cru. Alors j'ai accepté cette affirmation. J'ai la vie éternelle parce que j'ai cru au Fils de Dieu. C'est depuis ce moment où je me suis appuyé sur cette promesse, plus que sur ce que je ressentais et sur mon comportement, qui n'était pas terrible toujours, que j'ai été rempli de la paix de Dieu par rapport à mon salut et à la vie éternelle. Nous verrons la prochaine fois ce que Jean enseigne sur les preuves, les fruits qui démontrent qui est chrétien. Eh bien, nous